Vous écoutez France Culture.
Mass Critique, le magazine des industries culturelles et des médias sur France Culture. Bonjour à tous. Pour la première fois, le Printemps de Bourges, qui a commencé mardi et qui se terminera demain dimanche, accueille un invité d'honneur, le Japon. 10 groupes et artistes japonais se sont produits cette semaine sur les scènes du Printemps de Bourges, où se produiront ce soir ou encore demain, illustration de l'influence croissante de la culture japonaise en France. À cette occasion, Mass Critique prend donc ce matin ses quartiers japonais, J-pop, Japan Touch, jeux vidéo, Japan Expo, culture manga, kawaii ou otaku, la culture japonaise déferle sur la France et donc sur France Culture ce matin. Mass Critique Made in Japan, tel est le sujet de notre émission. Une dizaine de sujets d'invités se relayeront en studio et certains par téléphone depuis Tokyo, où il doit être le début d'après-midi aujourd'hui, afin de décrire chacun dans sa spécialité les différentes facettes de la culture populaire japonaise contemporaine. Toujours au sommaire de cette émission, 8h30, Sophie Fay du Nouvel Observateur s'intéressera à la culture jeune japonaise confrontée au vieillissement de la population du Japon. 8h45, Françoise Benamou reviendra sur la situation de deux titans, le japonais Sony et l'américain Time Warner. 8h50, retour sur l'actualité, nous parlerons ce matin de Japan Expo, de l'état des mangas et du phénomène Ponyo, le dernier film du génial Miyazaki, le Walt Disney japonais. Et puis tout au long de cette émission, nous écouterons plusieurs artistes japonais qui sont aujourd'hui très populaires au Japon et certains à Bourges cette semaine. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h depuis le studio 142 de la Maison de la Radio, c'est Mass Critique. Bonjour à tous. C'est la reine de la J-pop, elle s'appelle Ayumi Hamasaki, A Song for XX, c'est le morceau de son album célèbre, la reine de la J-pop, la pop japonaise. Bonjour Jean-Marie Bouissou.
Bonjour.
Alors vous êtes chercheur à Sciences Po, chercheur aux séries, le laboratoire des affaires internationales, des questions internationales de Sciences Po. Peut-être pour, avant d'évoquer plusieurs cultures japonaises, peut-être commençons par cette influence de la culture japonaise en France aujourd'hui de manière un peu générale. Qu'en est-il ?
En France et dans le monde, il y a quelque chose qu'on ignore assez souvent. Le Japon aujourd'hui est le deuxième exportateur mondial de biens culturels.
Après les États-Unis.
Après les États-Unis. Et avec un chiffre d'affaires à l'exportation qui représente environ 13 ou 14 milliards d'euros.
Alors quand on parle de globalisation, souvent on pense que c'est l'américanisation. En fait, c'est non. Une sorte de globalisation, si on peut dire.
Oui, le Japon a aujourd'hui pris le relais des États-Unis comme le vecteur principal, acteur principal de la globalisation culturelle, avec tout ce que vous avez cité, le manga, le film d'animation, les séries télévisées, les jeux vidéo. Super Mario, par exemple, on ignore assez souvent, mais Super Mario, Donkey Kong, c'était japonais, bien sûr.
Et puis Goldorak à l'époque, Goldorak, quand on était petit, tout ça.
La J-pop, puisqu'on a entendu Ayumi Hamasaki, reste par contre plus confidentielle. Mais en Asie la vague J-pop a tout recouvert. Les idoles japonaises sont d'énormes vedettes. Et ce qui est intéressant, c'est que cette culture japonaise qui s'exporte et qui a longtemps été considérée comme une sous-culture, il y a 20 ans ou 15 ans, on disait pique-pendre du manga dans le monde, dans les rapports officiels. Aujourd'hui, elle a acquis sa légitimité. Aujourd'hui, vous trouvez des articles laudateurs sur le manga dans toutes les magazines de l'establishment intellectuel, Télérama, Le Monde. J'en ai même trouvé dans Madame Figaro, des articles très laudateurs sur le manga. Et les mangakas sont récompensés au festival d'Angoulême, où pour le premier mangaka à avoir reçu un prix à Angoulême, c'était en 2005, c'était Jiro Taniguchi.
Il y avait même un colloque sur les mangas à l'ouverture du musée du Quai Branly.
Oui.
Ouais, comme quoi, la culture populaire peut être aussi, la haute culture est reconnue comme légitime.
Absolument, et nous en avons organisé deux à Sciences Po en 2006 et 2007.
Les mangas à Sciences Po, voilà, ouais. L'université française, où va l'université française. Alors nous avons par téléphone depuis Tokyo, Philippe Mesmer, bonjour. Alors vous êtes journaliste correspondant du Monde à Tokyo. Peut-être pour commencer, le Japon est à la fois un pays industrialisé, un pays non occidental. En cela, il est une vraie exception géopolitique. On dit beaucoup aujourd'hui que le Japon veut retrouver son identité asiatique plutôt que son identité de pays seulement industrialisé. Est-ce le retour du Japon en Asie, Philippe Mesmer?
Je pense pas que le Japon cherche à retrouver une identité asiatique. Il a une identité japonaise qui se trouve en Asie. C'est une entité particulière qui s'est construite notamment du temps de l'isolement du Japon pendant la période d'Edo. Je crois surtout qu'aujourd'hui, il cherche à se rapprocher de ses voisins asiatiques et à, dans une certaine mesure, s'émanciper de la tutelle américaine qui date de la Deuxième Guerre mondiale. Pour ça, les raisons à cela sont autant économiques que politiques.
Les marchés pour le Japon, c'est quoi? L'Asie du Sud-Est, la Corée, peut-être la Chine?
Dans le domaine économique, oui, c'est essentiellement la Chine, mais c'est aussi la Corée, l'Asie du Sud-Est de plus en plus, qui est aussi une base arrière pour conquérir l'Inde. Mais le Japon est très présent dans toute cette région sur le plan économique et culturel aussi.
Alors on a l'impression que le Japon n'a plus peur de passer pour un pays impérialiste sur le plan culturel, notamment vis-à-vis de pays comme la Corée ou Taïwan, avec qui évidemment l'histoire, ou la Chine, avec qui l'histoire a été, avec lesquelles l'histoire a été complexe.
Je crois que les exportations de produits culturels et de culture populaire japonaise vers ces pays-là, d'abord, elle n'est pas sujette à polémique. C'est-à-dire que ce sont des mangas, ce sont des feuilletons télévisés, des chansons.
Du soft power, pas du militaire ou du nucléaire, quoi.
Exactement, ça reste très soft, effectivement, soft power. Et je crois aussi que les publics en Chine et en Corée surtout, parce que c'est là que les antagonistes sont les plus forts, les jeunes sont moins sensibles aux questions historiques et puis ils perçoivent le Japon quand même comme le pays développé de la région. Ça reste la première puissance et tout ce qui vient du Japon, ça conserve quand même une image de chic et de sophistiqué. Vous avez écouté tout à l'heure Ayumi Hamasaki, effectivement, elle est très très populaire en Chine. Beaucoup de jeunes Chinois en sont fous amoureux.
Elle est très belle, il faut dire. Ouais.
Elle est très jolie, effectivement, et puis elle est un modèle pour toutes les chanteuses de la pop coréenne et de la pop chinoise.
En même temps, il y a une économie stagnante, hein, et face au Japon, il y a des pays émergents comme l'Inde, la Chine, sans parler bien sûr de la Corée du Sud, Singapour, Hong Kong, Taïwan. Est-ce que la crise d'identité que traverse le Japon depuis plusieurs années se traduit aussi sur le plan de ses industries culturelles et de sa culture, pour terminer, Philippe Mesmer?
Je ne sais pas si le Japon a une véritable crise d'identité vis-à-vis de l'extérieur. Je crois qu'il y a des crises sociales dont la plus importante, à mon avis, toute la jeunesse. Je crois que beaucoup de jeunes aujourd'hui confrontés aux difficultés de l'emploi, à trouver leur place dans la société, se replient un petit peu sur eux-mêmes, s'enferment un petit peu dans des mouvements qui leur sont propres. Alors ça se traduit effectivement sur le plan théâtral. Il y a le metteur en scène Okada qui est souvent joué en France, notamment avec sa pièce 5 jours en mars, qui reflète beaucoup ce mal-être des jeunes japonais. Ensuite, on retrouve dans les feuilletons télévisés, le problème des jeunes.
Puis on parlera tout à l'heure des otaku, hein, en termes de problème des jeunes. En tout cas, merci Philippe Mesmer. Je rappelle que vous êtes correspondant du Monde à Tokyo et par téléphone pour nous depuis Tokyo. Jean-Marie Bouissou, peut-être une réaction sur ce qui vient d'être dit par le correspondant du Monde.
Oui.
En géopolitique pour l'instant,
on va rentrer dans les sujets. Mais nous sommes géopolitique et culture, les Japonais, aujourd'hui les autorités japonaises, le gouvernement japonais, le ministère des Affaires étrangères japonais attachent la plus grande importance aux exportations culturelles. Ce qu'on appelle classiquement le soft power, que les Japonais appellent aussi le bonka power, le pouvoir culturel.
C'est très drôle d'ailleurs, mais l'inventeur du soft power s'appelle Joseph Nye, c'est l'ancien président d'Harvard, de la Kennedy School, et d'ailleurs ministre de Clinton, et il vient d'être nommé ambassadeur des États-Unis au Japon. Vous voyez, le soft power, les Japonais vont pouvoir savoir ce que c'est en direct. Alors on a maintenant par téléphone Yoshimi Ishida, qui est producteur japonais, c'est ça, hein? Bonjour.
Bonjour.
Yoshimi?
Oui.
Alors vous êtes producteur japonais, présent au Printemps de Bourges et là par téléphone avec nous depuis Tokyo. Vous êtes le producteur de nombreux artistes japonais, dont Eizi, une artiste qui s'est produite à Bourges hier soir dans un showcase live. Comment vous définiriez la Japan Touch, La musique
Japan Touch. Bah, pour moi, la Japan Touch, ce n'est pas quelque chose de récent. C'est que depuis toute son historique du Japon, le Japon n'a pas vraiment inventé des choses depuis zéro. C'est-à-dire que le bouddhisme, le kanji, la manière d'écrire, les hashi même, par exemple, tout ça, c'est venu de la Chine, des Corées. Et le Japon, peut-être comment dire, sa puissance, pour bon, dire que c'est le Japan Touch, c'est qu'ils peuvent transformer ça en leur manière.
Alors, votre artiste,
Oui.
Ezi, on dit
Oui.
Ezi, ça s'écrit Esie, jouera aussi à
Oui.
l'Olympia ce jeudi 30 avril dans le cadre d'une soirée spéciale Japon intitulée Manga City. Est-ce que les
Voilà, oui.
Français s'intéressent davantage à la pop et à la musique japonaise, vous diriez, aujourd'hui?
Oui, je pense de plus en plus. Oui, c'est vrai, oui.
Avec 10 artistes à Bourges, c'est un bon exemple, mais au-delà de Bourges, qui est souvent expérimental, est-ce que ça se traduit dans les chiffres, dans les ventes?
Chiffres dans les banques, je ne sais pas exactement, mais par exemple, on peut voir l'évolution Japan Expo, par exemple. J'ai entendu dire qu'ils ont eu à peu près 130 000 personnes qui sont venues sur
Oui, c'est le
l'exposition.
chiffre exact en 2008, on en parlera tout à l'heure.
Oui.
On parle souvent des artistes classés au Oricon, qui est une sorte de billboard
Oui.
japonais, c'est ça?
Oui, c'est ça,
Ça
oui. Voilà.
reflète l'état du marché avec.
Du marché, oui. De vente de disques, niveau téléchargement, voilà.
Vous diriez que la part de la musique japonaise est à quel pourcentage au Japon par rapport à la
Au
musique
Japon,
anglo-saxonne ou...
la partie du Japon est un marché très domestique. Je pense que le J-pop, à peu près 70% du marché.
Donc, qui est donc la pop japonaise, dont
Oui.
d'ailleurs ce qu'on appelle aussi l'inka, qui est la variété japonaise, hein, qui fait partie de ces 70% à peu près du marché, c'est ça? Alors, pour terminer, c'est quoi les marchés de la J-pop? Donc, le marché, c'est aussi le printemps de Bourges, la France un peu, mais les
Oui.
marchés cibles centraux, c'est quel pays pour les Japonais?
Bah, l'Europe, je pense, en premier, notamment la France et l'Allemagne, qui depuis un historique d'une dizaine d'années, je pense que beaucoup de gens sont intéressés sur la culture japonaise. Et il y a aussi les États-Unis.
Et puis en Asie, il doit y avoir l'Asie
En
du
Asie,
Sud-Est, c'est assez
oui,
importante,
il y a la
j'imagine.
Taïwan, la Corée et la Chine.
Et un peu Hong Kong et Singapour
Voilà.
dans cette zone. Ben écoutez, merci Yoshimi Ishida. Bon courage pour la fin du printemps de Bourges, et donc où 10 artistes japonais sont présents, dont Ezi justement, que l'on écoute à l'instant. C'est assez violent, mais ça s'appelle Ezi, donc au printemps de Bourges cette année, une artiste japonaise. On a maintenant Yoko Yamada par téléphone depuis Tokyo. Bonjour Yoko.
Bonjour.
Alors vous êtes directrice du bureau de promotion de la musique française au Japon. Peut-être pour commencer, en quoi consiste votre travail en faveur de la musique française au Japon?
Bien sûr. En fait, nous, on représente les maisons de disques françaises tout d'abord, ensuite des producteurs de spectacles vivants et maisons d'édition. Et pour développer des artistes français sur chaque marché, donc au Japon, aux États-Unis, en Allemagne, en Espagne, on a une petite dizaine de bureaux chaque pays, enfin, dans le monde entier. Et chaque bureau a une ou deux personnes. Des fois, il y en a quatre. Plus gros bureaux en Allemagne, par exemple, ils sont assez nombreux.
Alors, il y a une particularité de l'industrie de la musique au Japon, c'est l'importance du marché de la musique sur téléphone portable. Comment vous expliquez ce succès? Quelle est la part de ce marché?
Alors, donc, sur le téléchargement de musique en général au Japon, 89% est envahi, enfin, si on peut dire ça,
Envahi
par le
le téléphone
téléchargement
portable.
sur téléphone portable, voilà. Et pourquoi? Ça s'explique en fait une historique de sonnerie téléphonique qui commence depuis très très longtemps. Tout début, c'était juste une interprétation d'un morceau qui marche très très bien, dont vous parliez tout à l'heure sur Olicon par exemple. Donc dans la charte, vous prenez un morceau et vous rejouez au synthétiseur ce genre de choses et de mettre en sonnerie téléphone mobile. Ça, ça marche énormément au Japon, ça a développé beaucoup. Et encore maintenant, la plupart des gens qui téléchargent la musique, c'est sur le portable, en le prolongation de sonnerie portable.
Et puis il y a ce qu'on appelle le ringback phone, c'est-à-dire quand vous téléphonez, vous entendez une musique qui est choisie par la personne.
Exactement.
Et qui vous permet de l'écouter. Alors le Printemps de Bourges accueille cette semaine une dizaine de groupes et d'artistes japonais, c'est une grande première. Comment expliquez-vous le succès actuel ou du moins l'attraction de la musique japonaise en Asie, en Europe et donc désormais en France?
Alors Yoshimi a parlé tout à l'heure vaguement, en Europe il y a beaucoup d'intérêt pour la musique japonaise, surtout en France vous avez un énorme marché qui s'appelle Japan Expo, autour de dessins animés, on appelle ça... animé, manga. Et avec cette grosse tendance, il y a une sorte de musique, un genre particulier qui a vachement développé en Europe, qui s'appelle Visual Kei, c'est-à-dire genre musical, enfin, au niveau musical, il n'y a pas de particularité de genre, mais en visuel, ils sont tous très très maquillés, presque déguisés, soit en princesse, en prince, ou des personnages d'ancien âge, ce genre de choses.
Est-ce que vous connaissez Boa Yoko Yamada?
Bien sûr.
Voilà, alors merci en tout cas d'avoir été avec nous par téléphone depuis Tokyo. Et on écoute justement du Love Me de Boa. Elle a 22 ans, elle est catholique et sexy, plus de 10 millions d'albums vendus de son dernier album. Ses 7 derniers albums d'ailleurs ont été des succès pan-asiatiques incroyables, véritable phénomène en Asie. En fait, elle est coréenne, mais elle chante, elle s'adapte, elle chante en japonais, aussi en mandarin et en l'occurrence en anglais aussi. Do You Love Me, extrait de l'album Girls on Top, Boa. Alors Jean-Marie Bouissou, on a parlé de différents aspects de la culture japonaise depuis le début de cette émission. Vous êtes chercheur aux séries à Sciences Po. Une réaction peut-être sur ces différents sujets?
Oui, je crois que aussi bien M. Ishida que Mme Yamada ont mis le doigt sur deux choses qui sont importantes, essentielles je crois, pour définir la Japan Touch. Ishida a dit on n'invente pas depuis zéro, on bâtit. Et ce qui me frappe dans la culture japonaise populaire contemporaine, c'est son aspect métisse. On parle de l'invasion de la culture japonaise en Asie, mais on a tort. En fait, ce qui se développe en Asie actuellement, c'est une culture métisse, japonaise, coréenne et boa.
Un exemple de illustration. Ouais.
Mais il n'y a pas seulement, par exemple, les séries télévisées japonaises qui envahissent l'Asie, les séries télévisées coréennes font presque aussi bien. Donc la capacité de la culture japonaise populaire aujourd'hui à se métisser est remarquable.
Dans les séries télévisées, notamment la Sonate d'hiver et les Flowers Fall, les F4, qui sont à la fois taïwanais pour la première série, coréenne pour les autres, et énorme succès au Japon aussi. Ouais.
Et évidemment, le métissage, ça aide à l'expansion à l'étranger. Et la portabilité, les Japonais ont inventé la culture nomade. Et quand Mme Yamada a parlé de l'écoute et du téléchargement sur les portables, les Japonais ont inventé la culture nomade avec le Walkman, par exemple. Et aujourd'hui, dans le manga...
Le Walkman de Sony,
bien sûr. Ouais.
Et Par contre, c'est les Américains qui ont inventé l'iPod, mais chacun son style. Donc, pour la musique, par exemple, ce qui est frappant aussi, c'est que la J-pop, par exemple, se répand grâce justement au manga, au drama et au dessin animé qui accompagne ces films ou ces dessins animés. Et donc, il rend la musique influente un peu partout dans le monde.
Tout est lié dans la J-pop. L'aspect visuel a une extrême importance et je dirais assez souvent une importance supérieure à celle de la musique elle-même. Et l'esthétique de la J-pop... des déguisements des chanteurs, ça vient directement de l'univers manga.
Puis il y a les boys bands, les idols, oui, comme on dit, très très célèbres. Et puis alors, il y a des choses intéressantes. Parfois, on écoute de la musique qui est par exemple chinoise. Et en fait, ce sont des artistes japonais qui ont été reformatés en mandarin à,
oui,
Taïwan.
Bien sûr.
Donc c'est là où effectivement, on a du mal, on s'y perd parfois.
Il existe la même chose pour des séries manga dont les Taïwanais tirent des séries à téléviser animées qui ensuite sont diffusées en Chine populaire et qui après reviennent au Japon.
Voilà, alors tout ça c'est positif. Maintenant on va parler des jeunes et des moins jeunes, qui est un aussi des problèmes du Japon. France Culture, Masse Critique, Sophie Fay du Nouvel Observateur nous rejoint. Bonjour Sophie.
Bonjour Frédéric.
La culture jeune confrontée au vieillissement de la population au Japon, tel est le sujet de votre chronique, chère Sophie, ce matin.
Oui, parce qu'on voit bien que la culture japonaise en France séduit les jeunes, mais il ne faut pas oublier que le Japon, c'est d'abord un pays de seniors. Aujourd'hui, c'est le pays qui vieillit le plus vite, et un Japonais sur quatre a plus de 65 ans. Et entre 2015 et 2020, on va se rapprocher de 1 sur 3.
Alors, peut-on vieillir et innover? C'est bien ça le problème pour les Japonais.
Eh bien, il y a un très bon exemple. Ça marche plutôt pas mal. C'est l'exemple de Nintendo. On voit que c'est la console DS. Donc, DS, c'est la console portable, et la Wii, qui est la console fixe sur la télé, ont été conçues vraiment pour tous les âges. Et ça marche. L'âge moyen des joueurs de DS, c'est 30 ans. Elles ont été vendues à 5 millions d'exemplaires dans le monde. Il y en a autant, en 4 ans, hein, il y en a autant utilisés par des hommes qu'utilisés par des femmes. Et surtout, la grosse surprise, c'est que le jeu le plus vendu, les deux jeux les plus vendus, ce sont les programmes d'entraînement cérébraux du professeur Kawashima, où on teste quel âge a votre cerveau et vous jouez ensuite pour le rajeunir. Et ils font plus que Mario Kart et que Pokémon. C'est 12 millions et 15 millions de jeux dans le monde pour l'édition 1 et 2.
Puis la Wii Fit pour faire du sport, ça vous l'avez testé, je vous imagine bien, Sophie, le matin, comme ça, sur votre Wii Fit.
Non, je teste plus la DS de mes fits que la Wii Fit. Mais non, ce qui marche très fort avec la Wii, c'est la Wii Fit, mais c'est surtout la Wii Sport, parce que les seniors adorent le jeu de bowling. Et donc, il y a même des tournois de bowling pour les seniors aux États-Unis. Donc, ça s'est bien exporté. Et puis, donc, c'est cette Wii qui a été installée dans beaucoup de maisons de retraite au Japon. Elle arrive maintenant dans toutes les maisons de retraite en France. Il y a un réseau qui s'appelle Medica qui l'a installée partout.
Alors, est-ce que c'est le début d'une longue série d'innovations qui vont nous arriver du Japon, la culture des seniors, au fond?
C'est le début, mais autant la Wii et la DS se sont bien transposées, autant on peut se poser un peu plus de questions sur les robots, parce que ça, c'est la grande phase. Alors, au Japon, il y a une tradition animiste, les objets peuvent avoir une âme, donc il y a moins de recul par rapport aux robots qui chez nous est perçu comme un peu hostile. Et puis surtout, Astro Boy, donc le petit robot animé des premiers mangas, était créé en 1953. Donc les seniors aujourd'hui ont complètement grandi avec cette culture de manga. Et donc aujourd'hui, ils acceptent les robots comme aide, mais aussi comme robot de compagnie. Donc il y a un petit phoque animé très bien fait avec des grands yeux, la Paro le phoque, qui est rentré dans les maisons de retraite et qui est un animal de compagnie. Il y a des petits robots, des petits D2, R2, qui chantent avec les gens, qui plaisantent avec eux. Et puis, alors, la prochaine étape, ils sont en train de mettre au point un truc assez extraordinaire. C'est une sorte de squelette que vous enfilez comme une carapace, qui est un exosquelette et qui décuple vos forces et qui pourra aider les personnes qui ont des difficultés à se déplacer, à bouger.
Alors, du côté culturel, qu'est-ce qu'on peut attendre de ces évolutions?
Alors, c'est plus difficile, c'est plus vraiment encore plus difficilement transposable pour nous. Et puis, c'est très difficile de trouver des choses très originales. Alors, Jean-Marie Bouissou me disait avant l'émission que il y a beaucoup de mangas des années 70 qui sont réédités, il y a une vague nostalgie. Eh bien, moi, sinon, côté culturel, les personnes que j'ai interrogées m'ont surtout signalé un phénomène assez extraordinaire. C'est la pornographie spéciale senior. Donc, ça a commencé début 2000 avec une série télé qui a eu un succès phénoménal. Un vieux monsieur, qui initiait des femmes de tous âges. Et comme les femmes plutôt matures ne se reconnaissent pas dans ces séries, elles ont aussi créer un genre pour elle. Voilà. Et puis sinon...
Vous voulez dire du porno senior féminin japonais ?
Voilà. Du porno où les femmes seniors ressentent quelque chose, quoi.
Je parlais de culturel, hein, c'était ça le...
Mais c'est
important.
C'est important, voilà. Et sinon, ce qu'on voit dans les maisons de retraite, pour distraire leurs pensionnaires, ils ont recréé une coopérative, et donc finalement on recrée le travail. Et là on revient au professeur Kawashima, celui qui a inventé ces fameux programmes d'entraînement cérébraux. Il n'a pas touché les royalties que Nintendo lui devait, c'était 15 millions d'euros. Il les a donnés à son université pour la recherche, parce que lui, il a dit que de toute façon il voulait travailler, son hobby c'est son travail, qu'il a 48 ans et qu'il voulait aussi que ses enfants travaillent, que donc il n'avait pas l'intention d'arrêter.
Sophie Fay du Nouvel Observateur dans Masse Critique ce matin, une émission spéciale consacrée à la Japan Touch, à la J-pop, aux jeux vidéo, à Japan Expo, à la culture manga kawaii, otaku, la culture japonaise qui déferle sur la France. Alors on a un studio Abdel Bounan, bonjour Abdel.
Bonjour.
Vous êtes d'ailleurs chroniqueur à France Culture. Vous êtes par ailleurs le fondateur et le directeur d'une revue qui s'appelle Amusement, qui est le premier magazine français consacré aux jeux vidéo. Et alors on a un peu tendance à penser que c'est un peu peut-être un cliché, que le jeu vidéo c'est d'abord, et ça va de pair avec Japon et jeux vidéo. Est-ce que c'est un cliché ou est-ce que c'est vrai?
C'est à la fois un cliché et c'est une réalité, dans le sens où traditionnellement, effectivement, l'esthétique japonisante a beaucoup imprégné l'univers du jeu vidéo. Quand on pense au jeu vidéo, traditionnellement, vraiment le cliché, c'est le personnage effectivement avec des grands yeux qui est le personnage de manga traditionnel. Et après, au-delà de ça, l'industrie du Japon n'est pas finalement la plus représentative et la plus importante dans l'industrie du jeu. Aujourd'hui, le Japon justement vit une transition qui se tourne vers l'Occident, vers les États-Unis et vers l'Europe, parce que le marché domestique n'est pas suffisant, ne suffit pas à combler les frais de développement qui sont de plus en plus élevés.
Colossaux,
exactement. Donc la stratégie mise en œuvre par des éditeurs comme Square Enix par exemple consiste à occidentaliser, en tout cas mettre à disposition des médias occidentaux les propriétés intellectuelles dont ils disposent.
Si on regarde les grands groupes producteurs de jeux vidéo, on a d'abord Activision qui a été racheté en partie par Vivendi Games, donc premier groupe mondial désormais, et c'est un Français, notamment avec World of Warcraft qui est de Blizzard. Vous avez ensuite Electronic Arts, ce sont des Américains, notamment les Sims. Et puis enfin Ubisoft qui est un autre Français. Donc il n'y a pas de Japonais dans les trois plus gros.
Oui, effectivement. Là, par exemple, je parlais de Square Enix il y a quelques secondes. Ils ont été obligés Square et Enix ont dû se rapprocher pour faire un gros groupe, le premier groupe japonais. Les jeux qui fonctionnent énormément, on parlait des Sims il y a quelques secondes, ce sont des titres qui sont finalement peu porteurs de la culture locale et qui permettent aux joueurs d'imprégner leur imaginaire. Et de ce point de vue-là, on va dire que les Japonais sont mal placés, même si c'est un paradoxe. C'est-à-dire qu'ils ont tendance à imprégner leur propre culture dans les jeux vidéo. Alors que les Américains sont beaucoup bien mieux pour permettre des plateformes. On parlait de Sims, il y a également Spore, qui est un jeu dans lequel on crée son propre personnage de jeu, qui correspond plus à une plateforme créative dans lequel le joueur n'est pas inclus dans un univers pré-installé par le développeur, mais dans lequel il peut transposer son imaginaire. Et pour ça, les Occidentaux semblent meilleurs pour exploiter la spécificité du médium jeu vidéo dans lequel le joueur crée son propre univers.
Alors, vous dirigez Amusement, une revue relativement récente consacrée aux jeux vidéo, dont on a d'ailleurs parlé dans cette émission. Le jeu vidéo, c'est un marché très dynamique au niveau international. En forte progression d'année en année en ce moment.
Oui, le chiffre que tout le monde retient, c'est que la musique, la littérature se porte bien, mais la musique et le cinéma sont en baisse, alors que le jeu vidéo progresse de 15% par année. En même temps, ça cache une réalité dont on parle peu, c'est que finalement, les plus grands éditeurs de jeux vidéo sont en perte. Il y a un changement en ce moment qui est en train de se produire dans le jeu vidéo. C'est bien que le secteur global est en progression, les gros éditeurs de jeux vidéo ne font pas de profit substantiel. La progression vient de, par exemple, de sites dont on parle peu, par exemple des jeux de casual games, des jeux dans lesquels on joue 5 minutes sur des sites en flash et qui font des profits grâce à la publicité. Donc Electronic Arts, Take-Two, etc., Activision que vous venez de citer, sont peut-être les premiers éditeurs mondiaux, mais les profits aujourd'hui ne se réalisent plus que sur des blockbusters. Il y a un changement qui est en train de s'opérer, qui rapproche le jeu vidéo du modèle économique de la télévision, donc principalement basé sur la publicité.
Amusement, donc, une revue consacrée aux jeux vidéo. Abdel Bounane, vous êtes en studio, donc vous restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission. On reviendra avec vous dans un instant. On a maintenant Étienne Barral par téléphone depuis Tokyo. Bonjour Étienne Barral.
Bonjour Frédéric, vous allez bien?
Oui, vous êtes l'auteur du livre Otaku, les enfants du virtuel, publié chez De Noël, et vous vivez à Tokyo. Merci d'être sur France Culture ce matin. Comment est-ce que vous expliquez l'influence de la culture japonaise sur les jeunes du monde entier, Étienne Barral?
Je pense qu'il y a plusieurs réponses. D'abord, elle est...
Une déjà.
Oui, déjà. Cette culture japonaise, elle est d'une grande richesse de style et de thèmes. Chacun y trouve son compte. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges. Premier point. Et puis surtout, elle est plus proche des préoccupations des adolescents. Ils épuisent des sensations, des préoccupations qui sont proches des leurs, tout en restant dans le domaine de la fiction. Et puis, elle bénéficie aussi d'un... Ou on pourrait dire, elle bénéficiait d'un vide de contenu sur la période des 12-15 ans qui ne sont pas bien représentés dans les médias des autres pays, et notamment dans toute la période des années 80-90, où on a vu en France l'essor des émissions Club Dorothée, etc., et où les jeunes étaient nourris de dessins animés japonais. C'est un phénomène qui n'a pas lieu uniquement en France. Hein. Les dessins animés japonais représentent 60% des diffusions de jeux de dessins animés dans le monde entier.
Alors vous êtes spécialiste des otaku, hein, c'était le titre de votre livre. C'est quoi un otaku?
Alors le terme japonais, c'est une sorte de vouvoiement impersonnel lorsqu'on désire s'adresser à quelqu'un dont on ne connaît pas forcément le nom et qu'on n'a pas forcément besoin de savoir a priori. Les jeunes s'interpellaient ainsi dans les années 80 lorsqu'ils se retrouvaient dans des conventions de dessins animés ou de mangas pour évoquer ensemble leur passion. Historiquement, c'est une génération spontanée de jeunes japonais apparus au milieu des années 80, donc qui a fait le constat intérieur que les héros de fiction, les chanteuses qui passaient à la télévision, les idols que vous citiez tout à l'heure, étaient plus passionnants que leur vie quotidienne. Et ils ont trouvé dans cet univers fictif, déjà fort riche à l'époque, les compensations que ne leur offrait pas forcément leur quotidien.
Donc ils se sont enfermés dans une vie d'écran, enfin dans le virtuel.
Oui, alors justement, j'y arrive. C'est la première génération à avoir grandi de l'autre côté du miroir de l'écran, sous ses formes multiples. Celui de la télévision, bien sûr, mais aussi du magnétoscope, de la console de jeu, puis de l'ordinateur, et maintenant l'écran de téléphone portable. Les otaku ont besoin de ces écrans qui les protègent et les fascinent pour tisser les liens entre les personnes ayant les mêmes passions. Et parallèlement, ils montrent un dédain complet pour tout ce qui n'est pas de leur univers. Leur priorité numéro un, c'est ce monde fictif qui nourrit leur imagination. Alors on peut parler de fuite en avant, et on l'a beaucoup fait, mais on peut aussi...
Et même des suicides, donc c'est un terme assez dépréciatif hein, quand on parle d'otaku.
Bon, les suicides, vous savez, ça s'il y a un côté, l'attrait des médias pour le sensationnel est beaucoup à mettre en cause là-dessus. On peut penser, comme je le fais, que c'est cet univers virtuel qui constitue un point d'équilibre psychologique chez ces jeunes, une bulle où personne ne vient les rappeler à l'ordre, où ils peuvent vivre de façon imaginaire leurs fantasmes et leurs pulsions.
Vous êtes un otaku vous-même?
Ah non, pas du tout.
Peut être un otaku en France ou est-ce qu'on peut être otaku que japonais?
Alors moi, je pars du principe que il est nécessaire d'être baigné dans la culture et dans la société japonaise pour pouvoir entre guillemets prétendre au titre d'otaku, mais c'est pas un titre honorifique au Japon, effectivement souvent plutôt dépréciatif. Mais votre question est intéressante parce qu'en fait il y a une totale confusion et une incompréhension entre les jeunes occidentaux ou étrangers qui, eux, considèrent les otaku comme des espèces de grands frères qui ont lu tout Naruto dans le texte, etc. Et les otaku japonais qui, eux, sont plutôt se mettent en marge de la société contemporaine pour pouvoir mieux vivre dans leur monde imaginaire. Et donc, on assiste souvent à des incompréhensions entre les jeunes des différents pays, les étrangers se revendiquant otaku et les japonais sachant parfaitement qu'ils font
c'est les seuls à pouvoir être otaku.
Voilà. Et donc moi je préférerais qu'on utilise le terme de J-fan comme il y a J-pop ou J-fashion ou etc. Pour tous ces jeunes occidentaux et étrangers qui se revendiquent de cette culture otaku.
Alors on parle aussi d'un autre phénomène. Alors, on quitte les otaku peu autiste, pour maintenant s'intéresser au kawaii. C'est mignon ça, mais c'est quoi précisément les kawaii?
Ben, en fait, vous avez évoqué tout à l'heure les grands yeux des personnages de manga dès les années 50. C'est sans doute le premier exemple de ce qui est kawaii, comme vous dites, et donc ça signifie mignon en japonais, déjà le terme. Et c'est l'adjectif préféré des filles et des adolescentes au Japon face à un objet, un animal ou une personne qui leur plaît. Cela fait ressortir l'aspect féminin, enfantin, ludique, en opposition au sentiment de sérieux, de mature, de triste. Il y a un côté boîte à bonbons, monde imaginaire tout en rose, fait d'insouciance et de pureté, qui correspond, je crois, à une aspiration d'harmonie et d'insouciance. La vie est trop courte pour s'encombrer la tête avec des pensées funestes, quoi.
Étienne Barral, qui n'est donc pas un kawaii, puisque c'est tout petit, c'est tout mignon, c'est tout féminin, vous êtes barbu, mais pas vraiment un otaku. Merci d'avoir été par téléphone, sorti de votre bulle virtuelle depuis Tokyo. À l'instant, on écoute le boys band japonais par excellence. Il s'appelle SMAP. Leur succès vient de leur talk show télévisé, des dramas, les séries télé japonaises, plutôt que de leurs chansons. Mais paraît-il, ça marche quand même. Les chansons de SMAP. France Culture, 8h45. Dernière séquence de cette émission, on commence par la chronique de Françoise Benamou. Bonjour Françoise.
Bonjour Frédéric, bonjour à tous.
Sony Time Warner, des nouvelles de deux titans.
Alors, le japonais Sony, ce sont 5 domaines d'activité. Le premier domaine, c'est l'électronique, le hardware, qui représente les 2/3 du chiffre d'affaires du groupe. Un domaine en pleine croissance, plus 9% en un an, malgré quelques déboires, rappelez-vous le rappel des batteries défectueuses sur des PC. Le second grand domaine, ce sont les consoles de jeux, bien sûr, et les jeux qui vont avec. Le chiffre d'affaires s'est accru de plus de 26% en un an avec les différentes PlayStation 2, 3 et la portable. Sony reste pour l'instant dans une logique économiquement positive, où la vente des consoles dope celle des Logitech et réciproquement à travers ce que les économistes désignent par des externalités indirectes et qu'on pourrait résumer ainsi la valeur de la console est d'autant plus grande que l'offre de jeux est alléchante. Le cinéma ensuite. Moins de films, moins de recettes. Une baisse de 11% en un an. Reste la musique notamment, qui ne va relativement pas trop mal, compte tenu de la conjoncture exécrable qui pèse depuis plusieurs années sur le marché de la musique enregistrée. Quant au fabricant nippo-suédois de téléphones mobiles Sony Ericsson, il souffre de la baisse continue de la demande mondiale, à tel point que son chiffre d'affaires a décru de 35% en un an. Ce marché est devenu un marché de déstockage de plus en plus concurrentiel. Sony a lancé en France avant Noël le Reader, le livre électronique vendu exclusivement dans les Fnac et avec des titres Hachette exclusivement. La Fnac n'en aurait écoulé que 6000 exemplaires depuis octobre et seuls quelques 13 000 fichiers de livres numériques auraient été achetés.
C'est déjà pas mal, 13 000. Hein.
Oui, enfin, ça fait un chiffre qui semble bien fait parce que ça fait 2 titres par Reader. On peut se demander si les données publiées par la Fnac sont tout à fait bonnes.
Alors, à combien se monte le chiffre d'affaires de Sony qui semble présent sur une très forte part des marchés culturels, Françoise?
Tout domaine confondu, le chiffre d'affaires de Sony était au 31 mars 2008 de 88,7 milliards de dollars. Pour comparaison, il est intéressant de regarder où en est le premier des Américains, Time Warner. Avec une différence de taille, Time Warner, contrairement à Sony, ne se consacre qu'au contenu et pas au matériel. Le chiffre d'affaires de l'année 2008 s'établit à 47 milliards de dollars, un peu plus de la moitié du chiffre d'affaires de Sony, mais bien plus que le seul software de Sony. 2009, dans le meilleur des cas, sera stable, marqué par la conjoncture très difficile, par la baisse des droits télévisuels, par les dépréciations sur AOL, la division Internet qui plombe les résultats d'année en année et qui souffre notamment du reflux du marché publicitaire. Quant aux activités de cinéma et d'édition de livres, elles marquent le pas, tandis que la presse traverse la crise la plus grave de son histoire. Deux groupes, donc, deux situations contrastées. Sony présente de nombreux points de faiblesse, notamment du côté des téléphones mobiles et de la musique, a entamé d'importantes restructurations, mais bénéficie encore du boom sur les jeux et les consoles. Tandis que Time Warner souffre des difficultés qu'affrontent, à des degrés divers, tous les secteurs des activités de culture, à l'exception des jeux.
Françoise Benamou, masse critique Made in Japan ce matin. Nous parlons de Japan Touch, de J-pop, de jeux vidéo, de Japan Expo, culture manga kawaii et otaku, la culture japonaise qui déferle sur la France. Et on en a parlé plusieurs fois au cours de cette émission. Thomas Sirdé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en studio avec nous. Vous êtes vice-président et fondateur de CEFA, une société qui organise plusieurs événements en France, dont avant tout Japan Expo, le plus grand festival de loisirs et culture japonais en Europe. Comment, alors, vous fêtez vos 10 ans cette année, c'est ça? Ça sera en juillet.
Voilà, c'est depuis 10 ans, on organise le Festival Japan Expo avec comme premier objectif très simple de promouvoir la culture et spécifiquement la pop culture japonaise.
Et même les cultures au pluriel japonaises, puisque vous vous intéressez d'abord au manga, cultures, mais voilà, aussi aux jeux vidéo, aux dessins animés, à la Japanimation, comme on dit, aux modes, à la mode, etc.
Voilà. On est parti du manga parce que c'est ce qui nous a touché, nous, à titre personnel, au démarrage.
Vous, vous êtes un otaku aussi, hein, non?
On peut pas dire parce que je suis pas enfermé dans une bulle.
Et puis les otaku c'est vraiment virtuel alors que les mangas c'est sur le papier donc.
Oui voilà. Oui et puis le phénomène otaku est très 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 long à expliquer.
Complexe.
Mais,
ouais.
Nous sommes une communauté qui est souvent appelée les anime fans en fait par extension. Quand il parlait de J-fan aujourd'hui le terme le plus commun est anime fan. Donc on a découvert
les fans
le manga.
Les fans de l'animation.
Voilà, les fans de dessins animés. Ah. Et on a découvert le Japon ensuite et on a vu que le manga tel qu'on le percevait était une fenêtre vers la culture japonaise. Et l'ensemble des choses qu'on peut voir, par exemple la différence de comportement à l'école, le fait qu'eux, ils avaient des casiers, ce genre de choses, alors que nous, on avait nos cartables, et ainsi de suite. On a découvert donc une fenêtre vers la culture japonaise, on a découvert le Japon, et Japan Expo veut montrer justement l'ensemble de ces cultures au travers de deux principes qui sont le divertissement et la connaissance. C'est-à-dire, on veut vraiment donner l'opportunité aux gens, et notamment aux jeunes qui sont extrêmement présents chez nous, par exemple, de découvrir les aspects beaucoup plus traditionnels de la culture japonaise, à laquelle ils ne sont pas en contact de manière naturelle.
Alors les jeunes qui viennent massivement, 380 000, on le disait tout à l'heure, visiteurs en 2008.
135.
Ah bon, écoutez, on n'a pas les mêmes chiffres, mais vous avez sûrement les vrais. Ça a lieu pour, alors on dira que c'est ce qui se passera en 2009, donc du 2 au 5 juillet, au parc des expositions de Villepinte, Paris Nord. C'est quoi le thème de cette année principale, en juillet?
C'est les 10 ans.
C'est les 10 ans, c'est ça le thème.
Voilà, notre thème c'est les 10 ans, on est en train de monter un ensemble d'expositions justement pour montrer aux gens tout ce qui s'est passé en 10 ans, tous les artistes qui se sont déplacés sur le salon, et pouvoir faire découvrir à cette nouvelle population, puisque ça fait 2 ou 3 ans que le festival a vraiment explosé en termes de visitorat, et on veut montrer justement d'où c'est parti et à quel point la culture manga et la culture japonaise s'est étoffée en France.
D'où vient votre passion pour la culture japonaise? Vous m'avez pas l'air, sans vouloir vous décrire, très très japonais.
Non, je suis pas très très japonais. Il y a, en fait, quand on est ma génération, quand elle était jeune, a été baignée dans le dessin animé japonais. Vous parlez des années 80. On avait toutes les émissions à la télévision où on a justement consommé énormément de dessins animés. Ensuite sont arrivés les mangas, qui était la transposition en fait en papier justement du dessin animé, et de fil en aiguille on finit par se passionner pour cette culture, puisque on y a tous trouvé un point particulier qui pouvait nous intéresser, quoi.
Alors parmi les points d'actualité donc, dont on voulait parler ce matin, il y a ce 10e anniversaire du Japan Expo, il y a un autre phénomène, Sophie Fay, c'est le phénomène Ponyo, 13 millions d'entrées pour ce 14e film du génial créateur de Voyage de Chihiro, à savoir Hayao Miyazaki, hein, donc le sorte de Disney japonais.
Oui, c'est un énorme succès au Japon et c'est un énorme succès aussi pour les produits dérivés qu'il permet de vendre. Alors Miyazaki a toujours dit que lui, il ne voulait pas décliner ses personnages ou ses films en jeux vidéo pour ne pas abrutir les enfants et les plus jeunes, mais en produits dérivés, ça marche. Alors, ce qui est amusant avec ce film, c'est qu'on retrouve bien la problématique du Japon, avec à la fois deux enfants de 5 ans et une maman qui travaille dans une maison de retraite et qui donc court toujours pour à la fois s'occuper des plus petits et des plus vieux.
Sasuke.
Ponyo, qui est une petite fille poisson rouge dont on écoutait un extrait à l'instant. Une réaction peut-être, Jean-Marie Boussou, chercheur à Sciences Po, ou Abdel Bounane, ou Françoise Benamou
sur... S'agissant de Ponyo.
Oui, ou la petite fille poisson rouge.
Le Ponyo a eu du succès, mais si on compare par exemple au Omega Hit de Princesse Mononoke au Japon, de Miyazaki qui a été Princesse Mononoke, il est quand même loin des résultats de Mononoke.
Et même du voyage de Chihiro.
Oui. Et même de Chihiro, parce que c'est quand même un film qui a été positionné pour être visible à partir de 5 ans. Il s'adresse vraiment aux très jeunes ici Miyazaki.
Oui, Abdel Bounan.
Je l'ai pas encore vu, mais ça signe quand même le retour de Miyazaki qui était pas vraiment présent dans le cœur des fans depuis son film précédent, et qui avait eu également des problèmes avec son fils dans son studio de production.
Oui, là, studio Ghibli près de Tokyo, dans la banlieue est de la ville.
Donc ça signe aussi vraiment un retour de Miyazaki à des films fédérateurs, et qui le replace vraiment dans le devant de la scène. Ouais.
Ponyo sur la falaise, donc la petite fille poisson rouge. Alors maintenant, nous avons par téléphone Yves Schilf. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur général et fondateur de Kana, qui appartient au groupe belge Dargo, la branche manga en fait de Dargo. Les mangas, c'est une vache allée, si on peut dire, pour Dargo.
Moi, c'est né d'une passion que j'avais pour ce type de bande dessinée.
Vous avez été un des premiers à les importer d'ailleurs en Europe. Hein.
Oui, j'étais libraire avant de travailler comme directeur éditorial, et donc j'ai pu juger moi-même de l'influence qu'avaient ces bandes dessinées, que des gamins achetaient, même s'ils comprenaient pas, ils étaient prêts à l'acheter en japonais sans vraiment pouvoir les lire. Et à partir de là, j'ai essayé de convaincre ce beau groupe, Média Participation, de plonger sur les mangas. Ça n'a pas été facile, parce qu'ils n'étaient pas très chauds au départ. Et au bout de 2 ans de discussion, j'y suis arrivé. J'étais assez content.
Alors, on dit que le japonais est la deuxième langue traduite après l'anglais, notamment en France, à cause des mangas. Est-ce des chiffres que vous confirmez?
Oui, il est clair que l'influence du manga a changé d'abord le monde de la bande dessinée, mais aussi le monde du livre en France. L'auteur le plus lu, en tout cas il y a 2 ans, était le dessinateur de Naruto. Donc c'était l'auteur le plus lu en France, l'auteur qui avait vendu le plus de livres en France. Donc effectivement, ces mangas que personne n'aime, en tout cas que les adultes n'aiment pas, ont vraiment changé tout le paysage de la bande dessinée, mais du livre en France aussi.
En plus, le marché, puisqu'on considère que les mangas, c'est 40%, c'est ça à peu près, du marché de la bande dessinée en France?
Oui, on est arrivé pour le moment à un chiffre un peu stable depuis 2 ans, donc on tourne aux alentours de 40% de ce qui se vend en bande dessinée sur le marché français. Ça doit être un petit peu moins en Belgique et en Suisse, mais en tout cas sur le marché français, les chiffres sont tout à fait exacts.
Bon, merci Yves Schilf. Pardon, la ligne téléphonique est assez mauvaise, mais vous êtes donc directeur général et fondateur de Kana, qui appartient au groupe belge Dargo. Jean-Marie Bouissou, peut-être pour terminer cette émission, vous êtes aussi, donc vous êtes chercheur aux séries et à Sciences Po, mais aussi spécialiste du manga. Comment est-ce qu'on explique l'énorme popularité des mangas en France?
Je crois que le manga, effectivement, a apporté d'abord de la bande dessinée pour des gens pour lesquels on n'en faisait pas en France, le public féminin. On n'a jamais fait de bande dessinée pour les filles en France, ou plutôt après la disparition de la semaine de Suzette, on n'a plus rien fait. Et les adolescents de manière générale, auxquels le manga parle de leurs problèmes.
France Culture Masse Critique, c'est terminé pour aujourd'hui. On écoute Perfume, Love the World. Elles viennent d'Hiroshima. Ce sont des non pas des boys girls, des boys band, mais un girls band. Premier single de technopop japonaise a été classé numéro 1 dans l'Oricon, sorte de top 50 japonais. La semaine prochaine, Masse Critique sera consacrée aux syndicats et à la culture. Nous en parlerons avec les responsables culturels de la CGT, CFDT, de FO et de la CFE-CGC. Masse Critique, l'équipe Françoise Benamou, Sophie Fay, Laurence Genpin, Jacques Vincent à la régie, Luc-Jean Reynaud à la réalisation. Merci à Christian Charles pour la programmation musicale et à Mathias Mégy qui m'a assisté ce matin. Merci Jean-Marie Boussou d'avoir été avec nous ce matin. Masse Critique, une émission de Frédéric Martel. À la semaine prochaine et dans un instant, le journal.